Voyage Japon au Théâtre du Châtelet, en direct sur France Inter.
Un concert de solidarité exceptionnel pour venir en aide aux victimes du tsunami.
Avec Abdelmalik,
Jane Birkin,
M,
Arnaud,
Charles Aznavour,
Gabi,
Vincent Delerme,
Miossec,
Catherine Deneuve, Dominique A,
Alain Souchon,
Jeanne Gérald,
Daphné,
Thomas Fersen,
Arthur H,
Alain Chamfort, Louis Doyon,
Olivia Ruiz,
Bernard Lavilliers,
Les Têtes
et bien d'autres.
Une soirée unique dont les bénéfices seront intégralement reversés à la Croix-Rouge japonaise.
Pour assister à ce concert de solidarité, réservez dès maintenant vos places en appelant le 01 40 28 28 40 ou en vous connectant sur châtelet-théâtre.com. Concert SOS Japon. Une soirée présentée par Didier Varro en direct du Théâtre du Châtelet, à suivre sur France Inter, demain à partir de 20h. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, restez avec nous, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour à tous, une nouvelle fois la présomption d'innocence est bafouée. Ces pauvres concombres espagnols, qui plus est probablement biologiques, sont accusés sans la moindre preuve à la suite de décès et d'intoxication en Allemagne. Donc on n'en sait rien, ils ont fait crever tout un secteur d'agriculture. Je ne sais pas si les fervents défenseurs de la présomption d'innocence s'agissant des viols seront aussi virulents s'agissant des concombres. Merci, au revoir.
Ce matin, j'allume la radio, et qu'est-ce que j'entends? C'est Anne Lauvergeon qui est invitée au 7-9. Et là, je me dis que je vais encore passer une bonne journée. Oh, c'est vrai, elle est rassurante, Anne, avec toutes ses belles paroles. C'est un peu comme une deuxième maman pour moi. Et on a envie qu'elle nous prenne dans ses bras. Oh. Et ce soir, pour m'endormir, comme tous les soirs, je vais fermer les yeux et compter. Un réacteur nucléaire, deux réacteurs nucléaires, trois réacteurs nucléaires. 4 réacteurs nucléaires. Allez, bonne nuit les enfants.
Le vendredi 20 mai dernier, au cours d'une interview accordée à Claire Servazon dans le journal de 13h de France Inter, au sujet de l'accusation de viol qui pèse sur Dominique Strauss-Kahn suite à la plainte d'une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de Manhattan à New York, États-Unis, Gisèle Halimi a déclaré « Quand une femme dit non, c'est non ». Nombre d'associations féministes et de journalistes, chroniqueurs, politiciens, pseudo-intellectuels à la mode, enfin opportunistes de tout poil, se sont ralliés à cette position, visant à dénoncer un acte inqualifiable qui consiste à obtenir les faveurs sexuelles d'une femme non consentante et à exiger qu'il fasse l'objet de poursuites judiciaires et de sanctions pénales appropriées. C'est très bien. Je regrette seulement que tous ces gens-là aient oublié que le dimanche 29 mai 2005, il y a exactement 6 ans, le peuple français a majoritairement rejeté de constitution européenne qui était soumis à son approbation en déposant un bulletin non dans l'urne. Cependant, ce non n'a pas été respecté et les gouvernants de nos très démocratiques États européens ont contourné le non-consentement du peuple en imposant le traité de Lisbonne sans consultation des citoyens cette fois. Alors je me pose une question. Ce qui est vrai pour une femme, quand elle dit non, c'est non, il faut respecter son absence de consentement, n'est-il pas vrai pour un peuple ? La violence perpétrée par les chefs des gouvernements européens est-elle moins grave que celle commise par un agresseur sexuel pour que ces mêmes personnes qui s'indignent contre DSK supposés violeurs et à ce jour encore seulement supposés n'exigent pas le même traitement pour ceux qui, tout en se réclamant haut et fort et à tout bout de champ de la démocratie, la violent de façon quasi permanente? Le même traitement qui consisterait à traduire le président de la République française, le Premier ministre et les ministres concernés devant la justice pour non-respect de la volonté du peuple.
Voilà, je voudrais pas être pessimiste dans l'enthousiasme collectif des révolutions en train d'éclater, d'émerger, de prendre forme en Espagne, à Paris maintenant, place de la Bastille. Des révolutions qui se font sur Twitter, sur Facebook, c'est merveilleux avec des smartphones, avec des iPhones, des iPads, avec du super matériel produit dans des super usines, enfin, avec plein de super galettes, de super machines, et c'est vraiment la révolution Twitter. Et puis alors, j'ai entendu hier, donc, les revendications des jeunes, ils veulent travailler, quoi, ils veulent du travail, ils veulent pas en finir avec le travail, ils veulent, au contraire, ils veulent du boulot, ils veulent qu'on ait tous du travail, bon ben, voilà. La révolution Twitter, la révolution Facebook, la révolution de l'an 2000, eh bien, elle a vraiment la gueule de l'an 2000. Ouais. Elle sera sans moi. Ciao.
Allô, Daniel, c'est Gabriel là, de Barcelone. Je t'appelle parce que il y a eu des incidents à la Bastille. On a entendu ça d'ici, on a vu les vidéos et tout ce qui s'est passé. pour te dire, je ne sais pas si tu entends là, parce que je suis à une centaine de mètres. Je suis à une centaine de mètres du consulat français, où il y a, je ne sais pas trop bien compter, mais je pense minimum un millier de personnes qui sont devant le consulat et qui sont réunies spontanément après l'assemblée. Et voilà, il y a des pancartes qui disent « Bastille libre, on est avec toi, Paris no estás sola, Paris tu n'es pas seul », qui parlent de la France et qui dit « Aquesta es la seva democracia », c'est ça leur démocratie, en parlant évidemment de ce qui se passe à la Bastille et du délogement des gens qui manifestaient pacifiquement à la Bastille. Donc voilà, ça c'est ce soir, il est minuit et demi, on est dans la rue du consulat de France, il y a un bon millier de personnes je pense, et ça continue d'arriver puisqu'on... L'assemblée vient de se terminer sur la place de Catalogne. Et demain, le rendez-vous est pris pour rassembler encore plus de monde à 8h30 devant le consulat pour empêcher les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de travailler et pour empêcher le consulat de fonctionner. Donc il y a un soutien énorme aux Français indignés. Et voilà, donc j'espère que vraiment qu'on est en contact et qu'on arrive à suivre et à se coordonner les uns les autres.
Un petit arrêt sur image, on n'entendra plus la voix de Michel Bouju. Un petit coup de blues, voilà. Et il avait résisté hein, à une époque, là. Il s'était caché pendant la guerre d'Algérie. Bon, vive le cinéma, vive le cinéma, vive la révolution, vive les jeunes qui se révoltent partout. C'était Chantal de Paris. Salut Daniel, salut à tous, continue.
Ouais, Michel Bouju est mort. C'est la mort d'un type bien, un grand amateur de cinéma et qui a fait aimer le cinéma à des centaines de milliers, millions de personnes. Et c'était aussi quelqu'un de bien, il s'était pas caché pendant la guerre d'Algérie. Il était un insoumis, il faisait partie des insoumis qui avaient refusé d'aller là-bas pour massacrer des gens en révolte qui se décolonisaient. Et effectivement, il s'était réfugié en Suisse, d'où il avait commencé sa carrière. Salut à Michel Bouju. Des nouvelles, vous avez entendu, de Barcelone, où nous étions avec Antoine ces jours derniers, dont nous sommes revenus hier, avec les micros et les magnétophones, plein d'images, plein d'histoires, plein de victoires du Barça, et aussi finalement, et ben la lutte des indignés qui continue et de plus belle depuis vendredi matin où on se demandait si ça commençait pas un petit peu à s'essouffler. Eh bien, le chef de la police de Barcelone a donné un bon coup de main aux indignés en les réprimant, si bien que ça leur a valu un soutien populaire très très large, encore plus large qu'auparavant, et c'est donc c'est reparti pour un tour. Quel lien avec Paris, avec la France, est-ce que ça va prendre en France? On le sait pas, il y a un certain scepticisme. Malgré tout, s'il y a des points communs, il y a aussi des différences. Bref, c'est ce qu'on allait vous raconter aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Mais manque de chance, nous avons eu à France Inter une grosse panne informatique ce matin sur les serveurs de données. Deux serveurs de données sont tombés en panne, donc il a été impossible, on est bien malheureux, de monter les émissions. Toute l'équipe de la Bastille a attendu que ça se répare. Et voilà, c'est en cours de réparation, mais trop tard pour vous présenter cette émission. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a moins de messages aujourd'hui. La plupart de vos messages ne nous sont pas parvenus. On s'excuse, mais on s'excuse qu'à moitié, parce que il y a ce mot « indignez-vous ». C'est un mot, bon, évidemment, respect, admiration pour Stéphane Hessel, étonnement et plaisir de voir ce livre se répandre vraiment sur toute la planète. Vous savez que c'est un best-seller en Espagne, le livre va être traduit en chinois bientôt, enfin c'est un phénomène indéniablement. Mais enfin, ça date pas d'hier, cette indignation. On n'a pas attendu le bon, le grand, l'immense Stéphane Hessel pour s'indigner, et surtout pour trouver les raisons de cette indignation. Il y avait un texte magnifique qui disait on a raison de se révolter, on a raison de s'indigner, et quelles sont les raisons de cette indignation? Très longtemps, dans une émission comme la nôtre, on n'est pas les seuls, on a critiqué l'horreur économique. pour parler rapidement. Et très longtemps nous a dit, mais c'est bien ce que vous faites les gars, mais vous vous trompez. Nous aussi on est d'accord avec vous, mais enfin il y a la réalité. Il faut quand même constater la réalité. Il y a quelque chose de réel que vous n'arrivez pas à saisir. Donc nous étions dans l'irréalité. En somme, nous étions dans la fiction. Voilà, nous étions dans la fiction. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que la réalité dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction. Le chômage en Espagne, les coupes sombres dans les programmes sociaux, les politiques d'austérité absolument monstrueuses dans ce pays comme dans d'autres pays, et puis qui gagnent ici, ça c'est la réalité, et la réalité a bel et bien dépassé la fiction pour donner raison à cette fiction. Je vous dis tout ça parce que vous allez voir, un indigné, c'est aussi quelqu'un qui soudain comprend pourquoi. Quel lien il peut y avoir entre un penseur, quelque part, aux États-Unis, quelqu'un qui conçoit à travers la science économique, à travers la politique économique, une vision du monde, et qui, peu à peu, eh bien, va faire son chemin à travers les esprits, à travers la société, à travers le monde intellectuel, à travers le monde politique, pour devenir là aussi une réalité tangible et perturber complètement la vie d'un brave type avec sa petite entreprise. La force des idées, c'était un reportage de François Ruffin qui date du 16 février 2010, mais qui est vraiment pile poil en lien avec ce mouvement espagnol, et qui est aussi fleuri en Grèce et dans d'autres pays, en France, qui est en train de prendre, qui se cherche en tout cas sur les raisons de cette indignation, les raisons de ces colères et les raisons de se révolter. C'est notre thème du jour, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je rencontrais un agriculteur qui, au cours de la conversation, m'a fait part des déprédations subies dans ses champs,
oui,
par une bande qu'il estime organisée,
oui,
autour d'une personne dont il connaît le nom, qui s'appellerait Friedman.
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 Pas au courant du tout. Pas au courant.
La force des idées, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir qui est Friedman,
voilà,
pour être Friedmanisé.
Exactement.
Quoi.
Pas au courant.
Alors la faute à Friedman ou pas?
Merci.
Je sais pas si c'est la faute à Friedman.
Merci.
Friedman.
Friedman.
Friedman. Vous n'avez pas de prénom, Friedman?
Certains Milton.
Oh, mais c'est les Américains qui démarquent ça.
Salut, c'est Damien de Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Régis Aubenas, la force des idées.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour.
Allez-y, entrez. Entrez, mettez-vous à l'abri.
Régis Aubenas avec... En vert de travail, et le bonnet, parce que comme il fait froid, le bonnet bien planté sur les oreilles. Alors il y a le hangar au fond de la cour.
Donc c'est une mini-usine de conditionnement de pêche, on appelle ça.
Et les champs, ils sont où alors?
Les champs, ils sont tout autour, pour l'instant, parce qu'il y a la ville qui grignote, il y a les promoteurs immobiliers qui veulent faire des zones industrielles. En fait, on était les seuls agriculteurs à pas avoir, avec mon frère, à pas avoir voulu vendre. Nous, on avait décidé qu'on voulait continuer à faire des pêches. Alors, c'est un peu con, hein, parce que vaut mieux vendre les terres que faire des pêches. Mais voilà, c'est terrible. Hein. C'est terrible la pression qu'ils peuvent mettre.
D'ailleurs, ils viennent frapper à votre porte.
Bien sûr, ils viennent frapper à la porte une fois, deux fois, trois fois. Et comme ils savaient que les gens étaient en difficulté économique, quelqu'un vient leur faire miroiter un truc génial. Bon, ils se disent, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas moi aussi, ma belle bagnole, mon machin, tout ça, quoi. Bon, c'est tout ça, c'est de l'éphémère, hein. Et aujourd'hui, ça s'est renversé en peu de temps finalement, en un an quoi. Le coup d'arrêt définitif à la pression des promoteurs, c'était quand même la crise financière. Hein. Parce qu'il n'y avait plus de pognon, donc ils ont arrêté quoi.
C'est grand là, ce qu'on voit comme verger, c'est un grand verger, c'est un petit verger.
C'est un verger moyen, enfin normal. Le verger moyen du département, c'est 15 hectares quoi. Ça permet de dégager un revenu, enfin, ça permettait de dégager un revenu.
Pourquoi ça permettait au passé?
Ben parce que depuis 3 ans, c'est dur quoi, hein, au niveau économique. Parce que cette année, sur l'exploitation, on a perdu la perte du résultat net. Enfin, c'est moins 75 000 euros.
Vous avez perdu 75 000 euros.
C'est moins le résultat comptable, comptabilité, c'est moins 75 000 euros.
Là, c'est parce que les Français, ils aiment plus les pêches. Ils aiment plus vos pêches, les Français.
Non, mais je pense que les Français, ils aiment nos pêches. Hein. La consommation, cette année, elle était meilleure que l'année dernière. Donc, elle est bonne, la consommation. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils allaient gagner beaucoup de sous sur le dos d'autres gens qui travaillent. Quoi.
C'est-à-dire ?
Ça s'appelle les distributeurs. Qui eux sont là pour faire un maximum de marge sur les produits. Donc ils utilisent le fait qu'on est sur un marché, pour ce qui est de la pêche, on est sur un marché européen. On est dans une économie dite libérale. Et comme on est sur le marché européen, ben, moins de 10 ans c'est l'Espagne. Parce qu'elle a des contraintes sociales, environnementales, tout ce que l'on voudra, plus faibles qu'en France. Et qui fait que ben, c'est elle qui impose le prix. Quoi.
Et alors en perdant 70 000 euros par an, là, vous pouvez tenir combien de temps ben, avec toutes vos richesses?
Moi, cette année, si on n'arrive pas à redresser la saison, c'est-à-dire si on n'a pas une saison où on arrête de perdre du fric, bah, la boîte, elle s'arrête. C'est tout. Clé sous la porte. Merci, au revoir.
Et on va rentrer parce que moi, ouais, j'ai ma main caille. Qui est gelée. Ouais, ouais. Votre Mistral, il est bien gentil, là. Ouais, votre monsieur Mistral, mais...
Il est très sympa, le Mistral.
Heureusement que j'ai un casque sur les oreilles, quoi.
C'est pour ça que j'ai mis le bonnet, moi.
La fin de l'histoire, vous vous souvenez? La fin de l'histoire, c'était il y a 20 ans. Il y avait un temps, un tout petit peu plus de 20 ans. C'était fini. Voilà, le mur de Berlin était tombé et c'était la fin de l'histoire. Et en même temps que la fin de l'histoire, c'était la fin des idéologies. Par idéologie, à l'époque, on voulait dire l'idéologie communiste qui avait mené à cette catastrophe. Donc les idéologies, eh bien, c'était fini aussi. Plus d'histoire, plus d'idéologie. Et enfin, à l'évidence, l'ordre naturel des choses enfin s'imposait sur cette terre, apportait la paix parmi les hommes à travers, eh bien, le libre-échange, la liberté, la délocalisation, enfin, et tout ce que vous savez, tout ça, c'était terminé. Surtout, il n'y avait plus d'idéologie. Et ceux, évidemment, qui disaient ça, on était absolument pétris d'idéologie. Mais ils arrivaient à nous persuader, et à se persuader, peut-être aussi eux-mêmes, que l'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits. Voilà une phrase au hasard de Milton Friedman. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne crois pas en la démocratie absolue. Personne ne croit en la démocratie absolue. Personne ne croit qu'il est approprié de tuer 49% de la population quand bien même 51% voterait cette décision. Une autre phrase de Milton Friedman au hasard. Fixez les prix et les problèmes se multiplieront. Laissez les prix se déterminer d'eux-mêmes et les problèmes disparaîtront comme par enchantement. C'était le temps de la mondialisation heureuse. C'était le temps où enfin on avait trouvé le bonheur. C'était une question de temps, encore un peu de temps. Et puis tout le monde serait heureux. On a vu que c'était différent. Mais à l'époque où, il y a 20 ans donc, à la fin de l'histoire, à la fin des idéologies, il y a un certain nombre, mais très peu effectivement, qui ont réussi à faire entendre une voix contraire en disant « Mais non, il y a d'autres idées, d'autres mondes possibles, d'autres façons de voir les choses. La Terre n'est peut-être pas vraiment plate. » Ceux-là, on en bavait. Ils étaient peu nombreux. Une petite résistance qui ne ressemblait plus qu'à un filet d'eau par moment. Des maquisards, des maranes, comme on voudra. Et puis, petit à petit, quand même, par la force des choses et par les résultats de ces politiques, et puis aussi, quand même, par la force des idées, on s'est aperçu que, voilà, c'était peut-être pas le paradis promis qui était devant nous et que nous étions en train de vivre et de partager. Mais entre ce moment et le moment où ces idées, cette force des idées parvient jusque dans la vie quotidienne, la vie courante, celle d'un, par exemple, de quelqu'un comme Régis Aubenas, avec sa petite entreprise qui fabrique, qui élève des pêchers dans la Drôme, entre le moment où cet homme-là, dans son quotidien, arrive à comprendre d'où viennent les idées qui l'oppriment et qui nous oppriment nombreux parmi nous, eh bien, il en a fallu du temps. Mais c'est arrivé, et ce paysan a compris ce que c'est qu'une idée, et ce que sont et ce que furent les idées de Milton Friedman, qui a été un des grands penseurs de cette révolution conservatrice néolibérale. Curieux, non? Intéressant. Alors vous vous dites, oh là, on a compris, oui, oh, ça va être un paysan, comme on en entend dans la basse, si j'y suis. Quelqu'un de la Confédération paysanne, un de ces sympathiques. Non, vous allez voir. Surprise. Jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis, la force des idées.
C'était un petit producteur qui travaillait la terre avec son cœur. Comme son grand-père agriculteur, il était fier sur son tracteur. Bonheur. Oui, mais les choses ont bien changé. Le bonheur n'est plus dans le pré. Centrale d'achat Crédit Agricole, surendetté peu plus payé. Subventionné v'là qui picole. La corde au cou s'est flinguée, y'a personne pour pleurer. C'est la loi du marché, tu peux pas y échapper. C'est comme un train en marche et tu peux pas sauter, va falloir t'allier. C'est la loi du plus fort, tu t'écrases pas, t'es mort. C'est comme ça sur notre planète, y'en a qui trouvent ça chouette. Moi je dis, c'est bête.
C'est mes parents qui ont créé ça. On sait que les parents, ils se sont fait chier là. Pas été facile, ils en ont pris plein la tête dans les années 70. Mais il y avait toujours la voiture balayée, le filet de sécurité. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui faisait que ça s'écroulait jamais. Et puis tout doucement, après, le dogme libéral au niveau européen, il faut libéraliser. Donc les services publics, ça fait chier. Mais là, depuis, 20 ans, on va dire, c'est fini quoi. Hein, c'est démerdez-vous. Hein.
Quand tu dis doctrine, orientation.
Il y a un type qui s'appelle Friedman, Milton de son prénom. C'est économiste de Chicago, je crois. Et en fait, cette doctrine, elle a été, je pense, adoptée dans les fin 70, début 80. En Amérique, c'était Reagan. On a vu d'ailleurs la casse que ça a fait chez les farmers américains. Le fait que ce soit Clinton, quand ils sont revenus au pouvoir en 92-93, qui ont pris des lois agricoles pour faire du protectionnisme et stopper l'hémorragie. Il faut quand même le savoir. Parce que je rappelle simplement que Friedman, son premier labo, ça a été le Chili en 73. Hein. Son équipe, là, de fous furieux, là. C'est Pinochet qui les a fait venir. Et deux ans après, le pays était complètement exsangue. Et Pinochet, ils a foutu dehors, quand même. Hein. Donc on savait que ça marchait pas. Mais ça fait rien. On y est calé, quand même.
C'est-à-dire, le Friedman dont tu me parles, là, il est allé faire un tour au Chili.
Son équipe, là, ses équipes, là, ses disciples, oui, bien sûr, ils ont été appelés. Enfin, je crois que c'est une notoriété publique. Hein, ils ont été appelés par Pinochet, enfin, par les fous là-bas, pour s'occuper de l'économie. Et ils ont flingué l'économie chilienne en rien de temps, quoi, en deux ans. Et deux ans après, d'ailleurs, Pinochet a dû renationaliser tout un tas de trucs. Hein, parce qu'eux, ils avaient tout privatisé, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a une minorité de mecs qui s'en foutent plein les poches, ça va bien. Hein. Et les autres, on en fait quoi?
Attends, pourquoi? Là, on est au milieu des cajots.
Mais
tout ça. Et comment ça se fait que tu me parles de Friedman, Milton, économiste de l'école de Chicago, au milieu des cajots et tout ça, derrière un tracteur avec une veste Solac sur le dos et un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles?
Mais parce que tout ça est extrêmement lié, parce que le modèle économique et social dominant au niveau mondial, il est inspiré des théories de ce mec-là, quoi. C'est-à-dire que c'est la main invisible du marché qui va... Donc le lien avec nous, il est extrêmement simple.
Ah bon, le lien entre
mais
Friedman
oui, entre l'agriculture,
et ton verger
bien
derrière
sûr,
dehors.
Il est simple.
Ah oui.
Bien sûr, il est facile parce que
le mec il vit à Chicago.
Ouais.
Toi tu es à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme et tu me dis le lien entre un économiste de l'école de Chicago et mes vergers.
Mais parce que j'habite dans un état, enfin dans un pays qui s'appelle la France, dans une Union européenne avec des décideurs politiques qui quand ils prennent leurs décisions de gestion, leurs décisions politiques, s'appuient sur des idées. Et nous en Europe, c'est peut-être cher. Hein. Et globalement, on s'est aperçu qu'à partir de 85, c'est celle qui a amené ça, l'idée. À partir de 85, tout le monde s'est mis, hein, y compris la France. Hein. Tout pouvoir droite-gauche confondu, hein, on est allé en voiture. Quand Delors a monté l'Europe, le projet européen Delors sur les fins des années 80, c'était basé là-dessus. Hein. Concurrence libre et non faussée, etc. etc. Hein. On enlève tout ce qui est protection sociale parce que c'est pas bien, parce que ça freine l'entreprise, parce que ça fait des charges sociales, parce que voilà. Donc, et c'est la main invisible du marché qui régule tout ça. Pour moi, le lien, il est assez simple parce que c'est la théorie économique qui a été adoptée par tout le monde.
Donc si jamais tu dois déraciner tes péchés un jour, tu diras c'est de la faute à Friedman.
Je dirais que c'est de la faute aux responsables politiques qui ont épousé et qui ont absorbé sans trop réfléchir ces théories. Je trouve que la responsabilité, ce sont les gens qui, à partir des années 80, ont décidé que tout ce qui avait fait le socle, le fondement et le ciment de l'Europe, et le ciment des peuples après la guerre, c'est-à-dire en gros ce qui était dans mon programme du Conseil national de résistance, qui faisait où étaient les solidarités, etc. Ce sont ces gens-là qui l'ont détruit parce qu'ils considéraient que la seule alternative, c'était la financiarisation de l'économie. Voilà.
Et alors, est-ce que tu as déposé plainte?
Non, je n'ai pas déposé plainte. Je ne vais pas déposer plainte quand ce mec, je crois qu'il est mort en plus.
On se dirige vers la gendarmerie nationale. Du Pouzin pour dresser au Pandore le portrait d'un individu socialement dangereux. Il y a le drapeau tricolore qui flotte au-dessus.
Gendarmerie nationale, veuillez patienter.
Bonjour monsieur, je suis journaliste pour France Inter.
Oui.
On revient de Châteauneuf-sur-Isère.
Oui, oui.
Où on a été chez un paysan qui nous a un peu dressé le portrait d'une personne dangereuse qui ravage les campagnes. Et je voulais savoir si vous aviez son portrait ou...
Pas au courant du tout.
Friedman.
Pas au courant du tout, non, pas au courant. Pas au courant, non.
Ça vous dit rien, hein, Friedman?
Non, non.
Milton?
Non, non. Non.
Et ça, je sais, parce que vous avez des petites... des fois avec les violeurs, les meurtriers, vous avez des...
Non, non, on n'a rien. Non, non, si on avait quelque chose, je vous dirais. Non, non, on n'a rien.
Ce nom vous dit rien du tout?
Pas du tout.
Pourtant, apparemment, on en a déjà parlé dans les journaux et puis tout ça.
Peut-être dans les journaux, mais bon...
Il a un complice, entre guillemets, d'après lui, Hayek.
Non, mais ça ne me dit rien.
Mince.
Je suis désolé.
Mais apparemment, il a fait du dégât à Châteauneuf-sur-Isère, mais...
Ça me dit rien. Je sais pas, vous voyez peut-être plutôt sur Valence, sur le commissariat de Valence, ou sur... voilà quoi.
D'accord.
Peut-être
bon.
Qu'ils seront plus au courant que nous. Nous,
d'accord.
Ils traînent dans la campagne là-bas, ils sont peut-être plus au courant à Valence.
Non, parce qu'apparemment, ils font vraiment du dégât, quoi. Donc.
Je suis pas au courant. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Friedman. Friedman.
Pas au courant. Non. Pas du tout.
Bon, bah, apparemment... La gendarmerie du Pouzin. On n'a pas vu passer ni Friedman Milton, ni Monsieur Hayek, son complice, qui ravage pourtant les campagnes. Il faut aller voir plutôt sur Valence. On va aller voir sur Valence. Et, on est à Châteauneuf-sur-Isère, au milieu des palettes...
Oui.
Ça, c'est quoi? C'est un genre de...
C'est des escabeaux pour monter à l'arbre.
Ouais. On est au milieu des palettes,
ouais.
Des petits tracteurs, et on entend parler de Milton Friedman,
ouais.
De libéral. Toi, t'as fait un DESS d'économie?
Non, j'ai rien fait. Moi, j'ai un brevet technicien agricole. Et en plus, je l'ai passé en alternance. Mais j'ai bossé, hein. Moi, depuis 16 ans, je travaille, hein. J'ai été salarié avant d'être agriculteur, voilà. Donc, voilà. Donc j'ai pas de ESS économie, j'ai rien du tout. J'ai réfléchi, j'ai pensé, mais c'est pas interdit de penser.
Comment Milton Friedman de Chicago, il est arrivé à Châteauneuf-sur-Isère?
Mais parce que moi j'ai un bouquin que j'appelle, qui s'appelle Paysan, je vais vous en filer un exemplaire tout à l'heure. C'est des économistes, c'est des sociologues, des philosophes qui dans une revue agricole, hein, c'est voilà, qui font des articles, et c'est là que j'ai découvert pas mal de choses. Puis en travaillant dans le réseau syndical, on s'intéresse, on rencontre des gens, on a rencontré des économistes, etc. Donc voilà.
Inquiétant ça, hein, inquiétant si les paysans se mettent à réfléchir. Je plaisante bien évidemment. Formidable, non, hein, Milton Friedman. Alors donc, la source de l'inspiration et des idées de Régis, entre autres, c'est cette revue et ce mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture. Intéressant.
Alors là, on n'est plus à Châteauneuf-sur-Isère. On est 5 quai Voltaire, en plein cœur de Paris. J'interrogeais Régis Aubenas, qui cultive des pêchers. Il me disait, bon, moi, si on me demande d'arracher mon verger un jour, ça sera de la faute à Friedman. Ça sera de la faute à Milton Friedman, dont les thèses sont devenues réalité par le biais de... Donc, il citait Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Jacques Delors pour l'Europe. Et je lui dis, mais alors, on est à Châteauneuf-sur-Isère. Lui, il a un brevet de technicien agricole. Je lui dis, mais comment ça se fait que Milton Friedman et les théories néolibérales, elles sont arrivées jusque chez toi, quoi? Et là, il me montre une petite revue qui s'appelle Paysan, que j'ai amenée. Là, c'est le numéro de juin 2009. Il me dit, là, par exemple, il y a un article qui est intitulé « Libéralisation des échanges et sécurité alimentaire ». Donc ça parle de ça, ça parle d'un gros mot, ça parle du protectionnisme. Et ça, c'est écrit par des gens de Momagri. Momagri, c'est le mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture. Et c'est eux qui m'ont éclairé sur Milton Friedman. Alors, Jacques Carle, c'est vous qui dénoncez comme ça Milton Friedman ?
On dénonce surtout tout ce que les idées de Milton Friedman ont pu produire comme décision hâtive et très dangereuse en matière politique. Les lois du marché ne doivent pas dicter la manière dont on nourrit les populations. Alors, il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim, il y a 3 milliards d'hommes qui sont sous le seuil de pauvreté, et on a des agriculteurs un peu partout dans le monde, mais aussi chez nous, qui sont dans des situations dramatiques.
Mais alors, en quoi c'est de la faute à Friedman, ça ?
Ben, c'est de la faute à Friedman, parce que plus on libéralise les marchés internationaux, plus on soumet les producteurs agricoles à des concurrences, qui sont parfois des concurrences fondées sur des dumpings environnementaux ou sur des dumpings sociaux, qui font qu'ils n'arrivent plus à tenir le coup, à moins d'avoir des aides. Et comme ces aides réduisent régulièrement, toujours sous l'inspiration de cette théorie néolibérale, qui part de l'idée qu'il faut plus qu'il y ait aucune subvention, plus qu'il y ait aucune barrière aux échanges, et à ce moment-là, les marchés s'autoréguleront. C'est exactement l'inverse qui se passera. Dans le domaine agricole, et probablement dans d'autres domaines, les marchés ne s'autorégulent pas. Il faut qu'il y ait un minimum d'intervention de la puissance publique.
Alors, Jacques Carle, j'ai regardé votre CV. Vous êtes passé par l'ESSEC, donc une très grande école de commerce. Vous avez été chargé de mission pour un secrétariat d'État, celui de Xavier Emmanuelli. Donc vous êtes quelqu'un de sérieux. En plus, c'était quelqu'un de droite, donc vous étiez d'autant plus sérieux. Momagri, j'ai vu le mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture pour lequel vous travaillez, fait des formations avec le FMI. Ça veut dire que maintenant, il y a des gens sérieux qui s'en prennent aux idées de Milton Friedman ?
Il ne faut pas être aveugle dans l'application de théories économiques qui sont des approches très très générales. Il faut avoir aussi une compréhension de la réalité qui aille bien au-delà de la théorie. On ne peut pas mettre l'agriculture au risque de tous les dumpings du monde.
And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
Today, there really is.
moi, le truc que je me dis, mince, c'est, on est venu là, on est venu chez un gars de la FDSEA, quoi.
Ouais,
on n'est pas allé chez Gentil de la Confédération Paysanne. On n'est pas allé chez un gars qui a une parcelle en bio.
Ouais, tout à fait, exactement.
On est allé chez les méchants.
Ouais, chez les méchants, ouais. Les productivistes, les méchants, machin et tout. Ouais.
Qui foutent du désherbant.
Ouais, exactement, ouais.
Hein,
ouais.
Chez les gars qui votent à droite.
Pas forcément.
Chez ceux qui vont éventuellement saccager un bureau de ministre.
Éventuellement, ouais. Après, il y a l'image qui est renvoyée. Non, mais c'est plus compliqué que ça.
Nous, on va chez les méchants.
Et vous tombez sur un altermondialiste, oh, machin, putain. Et tout. C'est quoi ce boulot, quoi?
Bah ouais. Et puis en plus, c'est pas marginal. Bon, encore, t'aurais pris ta carte, il le saurait pas trop. Et puis tu serais assis au fond de la salle pour venir applaudir un coup de temps en temps. Mais bon, puis au bout d'un an, t'aurais décidé de changer de syndicat, de te rendre compte quand même que t'étais vraiment chez les méchants et qu'il fallait que t'ailles chez les gentils, la Confédération paysanne, quoi. Bon, t'aurais compris que c'était pas ta place. Ouais. Mais là, à la place, non, t'es cadre de la FDSEA, t'es le dirigeant. Dans la Drôme, des fruits et légumes.
Ouais, c'est des fruits, ouais.
T'es là, congrès avec Bruno Le Maire, tu vas aller parader à la tribune.
Ouais.
Bon, à côté du ministre, c'est même pas un marginal, c'est même, ils savent qu'il est là, quoi.
Ouais,
puis là, il tient des trucs sur Milton Friedman, le libéralisme, il faut sauvegarder les acquis de 45. Non, mais bientôt, on va te retrouver à côté de Xavier Mathieu dans les manifs, bras tendus pour défendre les comptes, paysans, ouvriers, même combat, quoi.
Tout à fait, exactement.
Et je me dis, mais la FNSEA, ils t'entendent, dire protectionnisme, Milton Friedman, Reagan, Thatcher.
Mais à la FNSEA, il y a plein de mecs qui pensent comme ça.
Mais ils t'ont pas exclu, là?
Non, pourquoi ils m'excluraient? Qu'est-ce qu'elle a dit, la Fédération des producteurs de fruits, à Le Maire? Ils ont demandé un coefficient multiplicateur. Je veux dire, c'est un peu bolchevique, cette affaire-là.
C'est-à-dire que, bon, les supermarchés, ils n'ont pas le droit de multiplier par plus que deux, par
exemple.
Voilà,
l'idée, c'est ça. C'est, on encadre les marges.
C'est l'URSS, quoi.
Ben non, c'est pas l'URSS. Un truc comme ça, c'est dans les années 70, sur les fruits et légumes, ça existait déjà. Hein.
Écoutez ça, l'histoire est sans appel. Il n'y a à ce jour aucun moyen pour améliorer la situation de l'homme de la rue qui arrive à la cheville des activités productives libérées par un système de libre entreprise. Bon, petite phrase anonyme, comme on en entend beaucoup, des activités productives libérées par... Ah, libérées. Nous y voilà, libérées. Eh bien, c'est cette libération-là. C'est cette libération-là qui a entraîné tout ça, c'est-à-dire la suppression de toute barrière, de toute protection, de tout contrôle, en principe, dans les principes, qui a entraîné cette dérégulation et qui a entraîné tout simplement le contraire de ce qui était promis, c'est-à-dire le triomphe du plus fort et le triomphe du renard libre dans le poulailler libre, ce qu'a compris Régis Aubenas, paysan à Châteauneuf-sur-Isère, Drôme.
Enfin, tu vois, tu dis... Friedman et ses copains, ils ont tout détricoté, ils ont tout... Mais qu'est-ce qu'il y avait avant?
Il y avait un coefficient multiplicateur qui disait que à chaque intermédiaire de la filière, c'était 1,2. Chacun prenait 20%, tac, 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 tac.
Chacun, c'est qui alors?
Chaque intermédiaire, donc il y avait le producteur qui vendait, mettons, 1 franc. L'expéditeur, il prenait 20 centimes. Le grossiste, il prenait 20 centimes. Et puis le mec, au détail, globalement, il prenait ses 20 centimes, voilà. Donc on avait quelque chose... où les marges étaient à peu près réparties. Globalement, ça se régulait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le produit, il part de la station. Le prix se fait sur l'autoroute, bien souvent, jusqu'au dernier moment. Et même parfois...
C'est-à-dire, on vous appelle au téléphone et on vous dit finalement...
Voilà, il y a des programmes qui se font. Voilà, aujourd'hui, il y a 40 palettes qui partent pour, je dis n'importe quoi, pour Système U. Bon, le prix est globalement, on va dire qu'on va tourner à peu près 1 euro. Mais peut-être qu'entre le moment où ils s'étaient mis d'accord sur 1 euro... Et le moment où ça va arriver dans la centrale, ça sera peut-être plus ça. Peut-être que la centrale va dire, bon, finalement, là, vous allez me faire 10 centimes aujourd'hui. Ou peut-être qu'une fois que même le prix aura été déterminé et défini, deux semaines après, ça, c'est Sarko, ça. Loi de modernisation économique, LME, loi Michel-Édouard. Leclerc-Michel-Édouard.
LME, loi de modernisation économique.
Ça fait Leclerc-Michel-Édouard. C'est la distribution qui a fait ça, la négociabilité du prix. C'est-à-dire que le prix est négociable tout le temps. Même une fois que vous avez vendu... que le prix n'est plus chez vous, qui s'est consommé et compagnie, ben ils peuvent encore renégocier le prix. Ça s'appelle la négociabilité.
Ils peuvent te rajouter 10 centimes aussi. Ils peuvent dire,
ça marche pas comme ça. Pourquoi eux, leur truc, c'est pas de rajouter 10 centimes, c'est de prendre un maximum de marge.
Ouais, ils se disent, bon, on a vu, vos pêches, elles sont belles.
Non, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Ah bon ?
Nous, cette année, les pêches, ils nous ont payé 89 centimes. Nous, notre prix de revient, c'est 1,10€. Pourtant, on les a vendus 89 centimes. On n'avait pas le choix.
Donc, vous avez perdu 21 centimes
ouais,
par kilo.
Ouais, c'est ce qui fait les 75 000 de pertes.
Mais tu pouvais pas aller voir Système U et lui dire, bah, regardez, mes pêches, elles sont belles.
Bon, ouais, mais ça, c'est pas aller voir Système U, mais Système U va me dire, ouais, et puis après, moi, j'en ai autant que je veux, deux fois moins cher quasiment, donc dégage. Les Espagnols, ils vendaient 30 centimes au moins que nous. C'était le prix du marché. Non.
Quand est-ce qu'on a détricoté ce coefficient multiplicateur ? Quand est-ce
86. Qu'on a... 86. C'était une réforme, la loi Galland. C'était 86, ils ont enlevé ça. Parce qu'au niveau européen, il fallait construire, il fallait donner des gages. Hein. Faut pas se la raconter. Hein. Je me souviens, c'était en 80... c'était 86. On avait fait un voyage à la Commission européenne et on avait vu les fonctionnaires qui préparaient la réforme de la PAC. Donc c'était 96. Il nous avait prédit fin des quotas, fin de toutes les aides agricoles pour, sur les céréales, etc. Fin de tous les mécanismes d'intervention. En 96, ils étaient en train d'écrire en fait ce qui va se passer, ce qui est prévu en 2013. On sait tous qu'en 2013, tout ça s'arrête. Donc en fait, la décision et le montage technique et on va dire le processus qui va arriver en 2013 à la fin de tout ça, c'était en 96. Les gars, ils travaillaient dans les... On avait vu des chefs de service, ils sont nombreux, la commission, en agricole. On avait vu le mec du lait. Il nous avait dit, voilà, le lait, c'est ça. Nous, on n'y croyait pas. On pensait que c'était pas possible. Moi, ça m'avait marqué, ça.
Et les mecs... Là, les mecs à la commission, c'était une armée de Milton Friedman.
C'était, voilà, une armée de types qui étaient calés là-dessus. Mais ils étaient sûrs, ils en étaient convaincus, quoi.
Plus aucune régulation.
Non, oui.
La main invisible du marché.
C'est clair. Mais clairement, et ça, c'était 96, je m'en rappellerai toujours.
Donc, il faut 17 ans pour mettre les idées de la Commission européenne ouais. en application dans l'agriculture française. Mais il a fallu 20 ans entre les théories de Milton Friedman ouais, au milieu voilà. des années 70... Voilà. Et la décision de l'Union européenne, voilà. il a fallu 20 ans pour que les idées de Milton voilà. Friedman deviennent voilà. réalité en matière voilà. d'agriculture.
Et aujourd'hui, quand on discute avec les mêmes personnes au niveau de la commission, ils sont de toute façon toujours calés là-dessus. Hein.
Toujours au garde à vous quand Milton Friedman
ils y passe. Calés là-dessus. Ils sont calés là-dessus. Il n'y a pas d'autre alternative possible.
Quoi, vous et ils citaient Ricardo, ils citaient Smith, Friedman, ils citaient Hayek.
Ils ne citaient pas ces gens-là, parce qu'eux, ils étaient dans l'action. Hein. Ils étaient en train de monter leur truc, mais derrière, voilà, en bossant un peu, après, on dit, tiens, mais pourquoi il dit ça, etc. Ouais.
En bossant un peu, après, tu as fait le lien entre ce que te racontait le mec de la Commission européenne et Friedman, et Hayek, voilà. et Ricardo.
J'ai essayé de réfléchir. Puis après, on tire un petit morceau de ficelle, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Je me dis que tout ce qui se passe, tel que ça se passe, ce n'est pas le fait du hasard, quoi.
Vous avez eu raconté ça, Bruno Le Maire, là, jeudi, à votre congrès, que c'est la faute à Friedman, qu'il faut arrêter avec le libéralisme, qu'il faut mettre des protections, des barrières douanières.
Oui, bien sûr, je veux dire, mon discours d'introduction du congrès, ouais, c'est ça, le corps de mon discours, c'est ça. Et je vais le dire à lui, mais je le dirai, comme je le dis à mes députés, à mes sénateurs, à qui il veut bien me parler. Ouais, mais je suis pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui le disent. Bien sûr qu'il faut réguler, bien sûr qu'il faut encadrer, bien sûr qu'il faut protéger. On a une protection sociale en France, tout le monde semble y être attaché, enfin les citoyens en tous les cas, les gouvernants c'est autre chose, mais les citoyens ils sont attachés. Pourquoi on n'aurait pas une protection économique? Pourquoi on pourrait pas travailler là-dessus? Pourquoi on va laisser détruire des emplois qu'on retrouvera jamais? Pourquoi on va laisser augmenter le chômage de masse? La France c'est pas ça. Enfin moi de ce que j'en avais compris en tous les cas. Quand je pense devant la mairie ou un truc comme ça, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Pour moi, ça reste quand même quelque chose d'important. Et je considère qu'aujourd'hui, les théories économiques et le fonctionnement économique s'attaquent à ces trois principes. Donc bon. Oui, je vais le dire à le maire, ça, oui, bien sûr. Alors, il y a quelques années, ça faisait un peu, bon... Ça faisait un peu le mec, qu'est-ce qu'il veut nous emmerder avec ces trucs-là Donc aujourd'hui, on entend, oui, il y a un écho, parce que de toute façon, tout le monde se rend bien qu'on va dans, on se rend compte qu'on va dans le mur quand même. Donc après, la question est de savoir si on peut pas bifurquer, quoi.
Friedman.
Pas au courant du tout, non, pas au courant.
Friedman.
Friedman.
Vous avez pas de prénom, Friedman?
Pas au courant, non.
C'est la force des idées, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir qui est Friedman voilà. pour être friedmanisé.
Exactement.
Pas au courant.
Vous avez besoin de mon soutien, mais j'ai aussi besoin du vôtre pour que tous ensemble, nous puissions offrir à la filière arboricole l'avenir qu'elle mérite dans notre pays. Je vous remercie.
Alors là, au congrès de la Fédération nationale des producteurs de fruits, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, vient de s'exprimer. On va descendre en bas de la Seine pour lui poser une question. Monsieur le maire, je discutais avec un producteur de fruits qui se trouve à la tribune, Régis Aubenas, et qui me disait que dans la Drôme, les surfaces avaient été divisées par deux en matière de verger en 10 ans. Lui se demandait s'il allait continuer, et il me disait « tout ça, c'est la faute à Milton Friedman ».
Ce dont je suis persuadé, c'est que il n'y a pas de compatibilité entre la poursuite d'une activité agricole en France ou dans les pays européens et la libéralisation totale des marchés. Et je crois que nos idées gagnent du terrain. Contre les idées libérales ou néolibérales de Milton Friedman, les idées françaises de régulation des marchés agricoles gagnent du terrain.
Mais est-ce que... Est-ce que c'est
pas un peu du rafistolage quand même, quand on dit la France est à 11,32€, on va faire passer le coût à 9,29€ alors que l'Allemagne est à 6€. Est-ce qu'on n'est pas encore dans la même logique quand même qui est celle du dumping social?
Il n'y a pas d'alignement du tout vers le bas, puisque les conditions sociales restent rigoureusement les mêmes. C'est l'État qui prend à sa charge l'allègement pour permettre justement aux producteurs de vivre plus dignement de leur travail.
Alors la faute à Friedman ou pas?
Merci.
On ne sait pas si c'est la faute à Friedman.
C'est la faute aux mauvaises idées.
Le ministre Bruno Le Maire sort, entouré de policiers, le flic des RG, du Conseil général de la Drôme. Ça court dans tous les sens. Vous voulez que j'appelle un taxi, monsieur le ministre?
Oui,
ça va
bien.
Voilà, j'en sais pas plus sur Friedman, moi. Sur Friedman, Hayek...
Ce que je sais, c'est que... Ça, on pourra poser la discussion. Ce que je sais, c'est que... On ne peut pas avoir de libéralisation totale des marchés, et donc il faut des règles. Voilà.
Je suis vraiment désolé, mais on a 9 chances sur 10 de...
Merci.
Voilà le bruit que ça fait un ministre qui rejoint sa gare. Je ne suis pas sûr que les limitations de vitesse seront respectées. Congrès de la Fédération nationale des producteurs de fruits. On va aller rencontrer le seul homme qui, à la tribune, ne portait pas de cravate. On va aller rencontrer le contempteur de Milton Friedman. On va retrouver Régis Aubenas.
Bonjour.
Bonjour. Ça va ?
Alors, moi, j'ai posé la question au ministre. Est-ce qu'il fait le lien entre Milton Friedman et la situation de l'agriculture aujourd'hui ? Il ne l'a pas fait automatiquement.
Mais ça ne m'étonne pas. S'il est d'inspiration quand même libérale. Et il fait partie des gens qui ont dit il faut voter le traité constitutionnel. Voilà. Il commence un petit peu à dire bon, il faut qu'on revoie le droit de la concurrence. Donc il commence à le dire du bout des lèvres parce que la situation est quand même difficile. L'agriculture se casse sa gueule, l'industrie se casse sa gueule, et surtout bientôt les services. Voilà.
Parce que là il fait, ce qu'il propose, c'est du rafistolage. Bon, on va faire un petit coup sur exonération. Regardez, vous avez un joli label qui est là maintenant à côté. Et puis aussi sur les produits phytosanitaires, on va plutôt s'aligner par le bas parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que nous qui soyons des bons élèves. Mais on ne touche pas à l'essentiel, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises.
Mais c'est clair. On fait du rafistolage et on dit on va moraliser les pratiques commerciales.
Il y a vachement de trucs à moraliser en ce moment. On moralise le capitalisme. Moi, ça
mais me... c'est une tarte à la crème, en fait.
Mais là, on a le sentiment, il est un peu schizo, on a l'impression. Le discours est un peu schizo,
mais...
parce qu'il dit, bon, faire gaffe, parce que là, on va dans le mur, hein, l'agriculture, ça peut se délocaliser comme l'industrie. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un marché qui est unique, mais que dans ce marché unique, bah, les normes environnementales, elles sont plus faibles ailleurs, les normes sociales, elles sont plus fermes ailleurs. Et là, on a le sentiment qu'il se pose la bonne question, le marché unique, mais avec des normes sociales et environnementales qui sont plus faibles ailleurs. Mais finalement, fin, il n'ose pas vraiment se la poser complètement, et il n'ose surtout pas y répondre.
Bah, le problème, c'est que s'il se la pose complètement, ça veut dire qu'il faut qu'il ait... explique aux citoyens, bon, on vous a dit que le traité de Maastricht c'était génial, on vous a dit que Lisbonne c'était bien, on vous a dit que voilà, et en fait il va être obligé de dire non, en fait on a fait des conneries, il faut, voilà, donc il commence à déjuger, c'est tellement énorme.
S'il se pose la question et qu'il y répond, ça veut dire il faut qu'on sorte de l'Union Européenne, il faut qu'on sorte de l'Organisation Mondiale du Commerce.
Sortir de l'Union Européenne, j'en sais rien, parce que c'est à mon avis beaucoup plus compliqué, mais dire merde à l'OMC, oui. pense que tant qu'on n'aura pas dit merde à l'OMC, on continuera à voilà. Et tant qu'on n'aura pas dit merde au dogme et à la nouvelle religion, eh ben on se fera cramer. On cramera des emplois et le chômage de masse continuera à augmenter.
Alors aujourd'hui, là, au salle Maurice Pic, au Conseil général de la Drôme, lors du congrès de la Fédération nationale des producteurs de fruits, est-ce que Milton Friedman il a gagné ou il a marqué un point ou il a perdu un point là?
Je pense que Milton Friedman aujourd'hui il est un petit peu remis en cause, quoi, parce que je pense que le politique aujourd'hui se dit bon, il va peut-être falloir qu'on essaie. Il parle de régulation, hein, et fondamentalement il a toujours gagné.
Donc Friedman n'a pas perdu aujourd'hui?
Non, Friedman je pense pas qu'il a perdu, mais il y a le doute qui s'installe. Et même chez les producteurs qui sont plutôt des gens, on va dire des entrepreneurs, des gens qui bon, ils se considèrent entrepreneurs, mais en fait, c'est des paysans, quoi. Le doute est là, moi. Je pense qu'ils doutent.
Bon, à bonne fin de congrès, vous faites quoi, là? Vous là, passez à Serpillière, maintenant?
Non, je vais boire un coup, là, et puis je vais rentrer chez moi.
Au revoir.
Bonjour. Vous êtes en communication avec la Gendarmerie nationale. Veuillez patienter quelques instants. Nous traitons votre appel.
Secrétariat compagnie, Jean-Chef Follon, j'écoute.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
Je vais vous passer une commande compagnie, quittez pas.
Je vous remercie.
Ici Gendarmerie de Romans, ne quittez pas, nous traitons votre appel. Ici Gendarmerie de Romans, ne quittez pas, nous traitons votre appel.
Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Excusez-moi de vous déranger.
Je
suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
Oui.
Je me suis rendu dans votre coin, à Châteauneuf-sur-Isère.
Oui.
Pour rencontrer un agriculteur.
Oui.
Qui, bon, au cours de la conversation, m'a fait part des déprédations subies dans ses champs, après un moment des déprédations assez importantes.
Oui.
Par une bande qu'il estime organisée.
Oui.
Autour d'une personne dont il connaît le nom, qui s'appellerait Friedman.
Oui.
Et lors de la venue du ministre Bruno Le Maire à Valence,
ouais.
Je lui en ai parlé également, et lui-même semblait au courant, donc depuis Paris, des agissements de cette bande menée par un certain Friedman.
Ben écoutez, je serais tenté de dire, moi j'arrive il n'y a pas très longtemps dans la circonscription, mais je ne suis pas du tout au courant. Donc vous me parlez d'exactions qui auraient été commises
par un certain Friedman.
Friedman, ouais.
Il aurait des lieutenants.
Ouais.
Une personne qui s'appellerait Hayek. Tout ça, je me demande si c'est pas des surnoms, parce que vous voyez, ça fait très américain, quoi. Enfin, très.
Oui, oui.
Un certain Ronald, ensuite.
Ça fait Ronald. Oui, ça fait très américain, oui.
Et ensuite une Maggie. Donc, ça serait un peu la l'égérie de la bande, quoi, si vous voulez.
D'accord.
De ma discussion avec cet agriculteur et de ma discussion avec Bruno Le Maire, il s'est viré dans l'agriculture, mais également dans les hôpitaux, et il y aurait eu des plaintes aussi à la poste.
Alors, qu'est-ce que ça serait comme genre d'exaction?
Bah, des arbres arrachés, des postes qui seraient contraints de fermer suite à leur pression, des choses comme ça, quoi.
Des bureaux de poste qui fermeraient à cause des exactions?
Ouais.
J'ai pas de connaissance de poste qui fermerait non plus dans la région, sous la pression d'un groupe, pour les satéroïstes, parce que quand même, pour faire fermer une poste avec des pressions, non, écoutez, je...
Vous appelleriez ça terroriste?
Bah écoutez, je sais pas moi, si on arrive à faire fermer une poste qui est quand même une représentation vivante des services de l'État quand même, hein. Donc je pense que c'est une certaine forme de terrorisme, mais bon. Et vous me dites même au niveau des hôpitaux.
Oui, apparemment, ouais, des services qui fermeraient suite à leur pression, enfin je sais pas trop, surtout dans les campagnes apparemment, mais...
Écoute, personnellement, j'étais pas du tout au courant de ces faits, ni de... voilà. Donc écoutez, donc en gros, vous, un arboriculteur de Châteauneuf-sur-Isère, vous aurez fait part d'exactions commises par une bande organisée en gros autour de nommé Friedman, avec des lieutenants Hayek, Ronald et une nommée Maggie, qui sévirait en arrachant les arbres donc des arboriculteurs, qui s'attaquerait donc et qui obtiendrait quasiment, qui irait jusqu'à obtenir la fermeture de certains bureaux de poste à cause des pressions qu'ils feraient. Et bon, ça serait connu, y compris des plus hautes autorités, puisque M. Bruno Le Maire en serait au courant.
Voilà.
Comme quoi, c'est bien, hein. M. le ministre est au fait des affaires plus que... C'est bien. Écoutez, pour l'instant, je vous dis franchement, là, j'ai mes adjoints qui sont à côté de moi, qui font aussi des yeux très surpris, parce que eux non plus n'ont pas connaissance de...
Ils n'ont pas entendu parler de ce Friedman.
Non.
D'accord.
Non. Vous n'avez pas de prénom, Friedman?
Certains Milton.
Oh, mais c'est les Américains qui débarquent, là.
Bah,
Friedman,
oui.
Milton, Ronald, Maggie, Milton.
Bon.
Bon. Merci. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Merci.
Voilà, et l'enquête se poursuit. C'était un reportage de François Ruffin avec Pierre Souchon. C'était une diffusion du 16 février 2010. Je vous le rappelle, on avait d'autres projets aujourd'hui. On devait vous raconter ce qui s'est passé à Barcelone ces jours derniers. Et ce samedi notamment, mais on a eu une panne informatique qui a frappé France Inter et la base J'y suis. Donc ce sera pour demain. Merci à Régis Aubenas, Dominique Laferre et Jacques Carle. Le bouquin sur Milton Friedman, c'est La stratégie du choc de Naomi Klein, publié chez Actes Sud en 2008. Demain donc, retour en Espagne. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et Pierrick Monsigny, Koy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Et voici l'ultime question de ce jeu. Quelles sont les activités accessibles avec des chèques vacances? Top!
Un week-end en gîte.
Exact.
Les colonies de vacances.
Exact.
Les billets d'avion, de train.
Oui.
Un stage de voile, de tennis.
Bonne réponse.
Une traversée en ferry.
Oui.
Une sortie aux eaux.
Exact.
La piscine.
Oui, très bonne réponse, Didier.
Les chèques vacances, c'est mille et une façons d'augmenter votre pouvoir d'évasion. Demandez-les à votre employeur ou à votre comité d'entreprise. ANCV, parce que les vacances, c'est essentiel.
Grâce à la GMF, Alex fait son jogging l'esprit plus détendu. Comme il roule peu, la GMF lui offre 10% de réduction sur son assurance auto. Forcément, moins il roule, moins il risque d'accident. Enfin, normalement.
GMF, assurément humain.
Conditions de l'offre 0970 809 809 ou sur gmf.fr.
France Inter présente Saline Lo, la nuit a fait belle. La chanteuse franco-camerounaise signe son retour avec La Nuit a fait belle, un petit bijou de musique africaine, moderne, évolutive, dynamique et poétique.
Jusqu'à ce que nos corps se dissolvent comme des morceaux de guimauve. En attendant, je dis la vie.
Retrouvez Saline Lo et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
16h, une minute sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas, si j'y suis. Les infos, Angélique Boin, salut.
Et on commence avec le procès d'Ivan Colonna et ses rebondissements. Procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Maître Bartolossi, avocat de Pierre Alessandri, demande que son client soit de nouveau entendu après l'affaire de la lettre qu'il aurait reçue d'Ivan Colonna. Aurait, car de ce courrier, il n'a jamais entendu parler, dit-il.
Mon client ne m'a jamais parlé de cette lettre. Aucune lettre n'a jamais été saisie chez mon client ou dans la cellule de mon client. Et à ma connaissance, mon client n'a jamais reçu cette lettre. Il me semble qu'il s'agit d'une grosse manipulation. La question, c'est de savoir à qui elle profite. Ben, l'intérêt, c'est de discréditer ou de décrédibiliser encore, à mon sens, hein, Monsieur Colonna. Je ne vois que ça. Hein. La question, c'est de savoir qui s'amuse à faire ce genre de manipulation.
Maître
voilà.
Bartolossi au micro d'Henri Mariani. Dans cette lettre, Ivan Colonna demande à Pierre Alessandri de l'innocenter. C'est le directeur central de la police judiciaire, Christian Lothion, qui l'a remise à la cour vendredi. Il dit l'avoir reçue d'un informateur dont il refuse de dire le nom. Nicolas Hulot salue la décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire. La France ne doit pas continuer à s'entêter et à faire l'impasse sur ce débat, écrit le candidat à la primaire écologie Les Verts pour la présidentielle. Daniel Cohn-Bendit réclame également un grand débat et un référendum sur le sujet. C'est un sérieux revers pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 ont atteint leur plus haut niveau historique en 2010, selon l'Agence internationale de l'énergie. Elles dépassent de près de 5% leur précédent record enregistré en 2008. À la veille de la journée mondiale sans tabac, l'AFSAPS recommande de ne pas fumer de cigarettes électroniques et indique qu'elles ne doivent plus être vendues en pharmacie. Ce ne sont pas des médicaments, elles peuvent provoquer une dépendance primaire, prévient l'Agence de sécurité sanitaire. Une nouvelle annonce concernant les radars dits pédagogiques, ce qui nous indique notre vitesse sans pour autant nous flasher. Il y en aura 2200 finalement installés sur tout le territoire dans les zones dites dangereuses. 200 mises en service d'ici fin juin, le reste avant la fin de l'année. Une annonce du ministre de l'Intérieur Claude Guéant lors d'un déplacement dans la Somme. Les élections municipales en Italie, selon les premières projections, à prendre donc avec précaution. La droite de Silvio Berlusconi aurait perdu Milan et subirait également une défaite à Naples. Nous y reviendrons évidemment à 17h. 17h. On file à Roland-Garros, rejoindre Julien Lenglet. Raphaël Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale. Gaël Monfils est de retour sur le court et c'est pas facile pour le Français.
Non, c'est dur pour Gaël Monfils qui, après l'interruption d'hier, a mené 2-7-1. Il a perdu le quatrième set, la quatrième manche 6-1. Et actuellement, une cinquième manche décisive donc entre les deux hommes pour savoir qui de Gaël Monfils ou de David Ferrer ira en quart de finale. C'est le Français pour l'instant qui mène 2-1 dans cette cinquième manche. Il est peut-être en position de breaker l'Espagnol. On va suivre ça dans un court Suzanne Lenglen archi-comble. Ici sur le central, vous l'avez dit, Nadal s'est qualifié face au Croate Ljubicic. Une victoire en 3-7, 7-5, 6-3, 6-3 en 2h26. Et à l'instant vient de débuter sur ce même court central le match entre Gilles Simon et le Suédois Robin Söderling, finaliste des deux dernières éditions. On en est qu'au tout début pour l'instant. 15 partout dans le premier jeu.
Et on revient vous voir à 17h, Julien.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des sélections et des enregistrements du jeu des 1000 euros en public en Seine-Maritime, aujourd'hui à Meynières-en-Bray à 18h. Et demain, nous serons dans le Nord, à Bergues. Rendez-vous à 18h30. À très bientôt.
Tous les jours,
c'est jouissif.
À partir de 11h,
le fou
du roi, Stéphane Bern.
Bernard Pivot, vous êtes à la langue française, que Stéphane Bern est au brushing, une référence.
Pour assister au prochain fou du roi, en direct du studio 106, avec Jean-François Kahn et Peter Conradi, rendez-vous demain mardi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
On va pas y arriver.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi,
oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
16h05, on poursuit l'après-midi en musique avec vous, Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, le mieux possible en tout cas. Aujourd'hui, des nouveautés avec des découvertes aussi de compositeurs qu'on n'avait pas encore entendus. Johann Wilhelm Hertel par exemple, né en 1727 à Eisenach, la ville de naissance de Jean-Sébastien Bach. Il a d'ailleurs pris ses premières leçons de clavier d'un ancien élève du grand Jean-Sébastien. Son père était violoniste, Hertel a suivi une carrière assez classique. Il est entré aussi en contact avec les musiciens de la cour du roi de Prusse, Frédéric II. Enfin bon, une carrière développée à Berlin ensuite, et puis des publications. D'ailleurs, il croyait que ses meilleures pièces étaient celles de musique vocale, des cantates, des leaders, des oratorios, etc., etc. Finalement, ce sont ces symphonies, ces concertos qui ont survécu. Ben, on peut jamais prévoir ce qui va rester de vous. Voici le presto d'une symphonia, une symphonie, on peut dire en français, en ré majeur de Johann Wilhelm Hertel. Thank you. Presto d'une symphonie en ré majeur de Johann Wilhelm Hertel, interprété par l'orchestre baroque Capriccio. Et voici un concerto pour basson du même, donc basson baroque aussi, qui est joué par un maître qu'on connaît déjà, on a déjà entendu ici, dans Vivaldi notamment, Sergio Azzolini. Mais un mot supplémentaire sur Hertel, on sait que c'était un musicien de très grande culture, il avait beaucoup de livres et de partitions chez lui, et puis il a tenté de toucher le maximum d'auditeurs par la simplicité de ses mélodies, et pourtant il a fait beaucoup de recherches sur l'écriture musicale. Néanmoins, il tenait à être compris de tous et il s'est approché du style galant, notamment de certains Italiens comme Pergolèse ou Iomelli. Voici un allegro ma non presto, on ne court pas, d'un concerto pour basson de Hertel.